Chapitre 8. Marcus Vicinius Crassus, surnommé Dives ou le Riche, comme de nos jours plus d'un riche est surnommé Crassus, a ce grand avantage d'avoir été fourni par l'Antiquité romaine comme un type de l'avarice moderne. Il était né 115 ans avant Jésus-Christ. Il avait donc 15 ans de plus que César. 85 ans avant Jésus-Christ, désigné déjà par sa richesse à la faction de Marius, il se sauva en Espagne. Puis, 2 ans après, Marius étant mort et Sylla ayant triomphé, Crassus revint à Rome. Pressé par Cinna et le jeune Marius, Sylla songea à utiliser Crassus en l'envoyant lever des troupes chez les Mars. Les Mars, c'étaient les Suisses de l'Antiquité. Qui pourrait triompher des Mars ou sans les Mars? Disaient les Romains eux-mêmes. Sylla envoyait donc Crassus recruter chez les Mars. « Mais, dit Crassus, pour passer à travers les parties ennemies, il me faut une escorte. »« Je te donne pour escorte, répondit Sylla, les ombres de ton père, de ton frère, de tes parents et de tes amis assassinés par Marius. » Crassus passa. Mais comme il avait passé seul, il crut qu'il pourrait profiter seul des fruits de son ouvrage. Il rassembla une armée, et avec cette armée, il s'en alla prendre et piller une ville de l'Ombrie. À cette expédition, sa fortune, déjà considérable, s'augmenta de 7 ou 8 millions. D'ailleurs, Crassus lui-même, sans mettre un terme à sa fortune, indiquait la fortune à laquelle il aspirait. « Nul ne peut se vanter d'être riche, disait-il, s'il ne l'est assez pour solder une armée. » Le bruit de ce pillage vint jusqu'à Sylla, qui, sous ce rapport, n'était pourtant point un homme difficile. Il en prit une prévention contre Crassus, auquel dès lors il préféra Pompée. À partir de ce moment, Pompée et Crassus furent ennemis. Cependant, Crassus allait rendre un immense service à Sylla, plus grand que tous ceux que lui rendit jamais Pompée. Les Samnites, conduits par leur chef Télésinus, s'étaient avancés jusqu'aux portes de Rome. Ils avaient, sur leur route à travers l'Italie, laissé une large trace de feu et de sang. Sylla était accouru au-devant d'eux avec son armée. Mais, au choc de ces terribles pâtres, son aile gauche avait été anéantie et il avait été obligé de battre en retraite vers Préneste. Il était, dans sa tente, à peu près dans la situation d'Édouard III, la veille de Crécy, regardant l'affaire comme perdue et songeant déjà comment il s'en tirerait avec la vie sauve, quand on lui annonça un courrier de Crassus. Il le fit entrer distraitement. Mais au premier mot du courrier, la distraction se changea en une attention profonde. Crassus était tombé sur l'armée samnite, tout en désordre de sa victoire. Il avait tué Télésinus, fait prisonnier Éductus et Censorinus, ses lieutenants, et poursuivait l'armée en déroute vers Anthemne. C'étaient là des services oubliés par Sylla. Crassus les fit valoir près de Rome. Aussi, ayant déployé un certain talent de parole, nous avons dit le cas que les Romains faisaient des orateurs, il obtint la préture, puis fut chargé de la guerre contre Spartacus. Nous avons raconté comment elle finit. Ce dénouement ne le raccommoda point avec Pompée. Pompée avait dit à ce sujet un mot que Crassus avait gardé sur le cœur. « Crassus a triomphé des rebelles, avait-il dit, mais moi j'ai triomphé de la rébellion. » Puis était venue l'histoire du triomphe de Pompée et de l'ovation de Crassus. On était injuste envers ce pillard, ce publicain, ce millionnaire, et vraiment c'était presque justice. D'ailleurs, son avarice révoltait. Tout le monde racontait certaines anecdotes relatives à un chapeau de paille, et plus tard que ce grand collectionneur d'anecdotes nous l'a transmise, tout le monde racontait, disons-nous, certaines anecdotes relatives à un chapeau de paille, et cette anecdote faisait la joie de Rome. Crassus avait un chapeau de paille suspendu à un clou dans son antichambre, et comme il aimait fort la conversation du grec Alexandre, quand il emmenait avec lui à la campagne, il lui prêtait ce chapeau qu'il lui reprenait à son retour. Avec plus de raison que de César, Cicéron disait de Crassus à propos de cette anecdote, « Un tel homme ne deviendra jamais le maître du monde. » Passons à Cicéron, qui fut un instant maître du monde, lui, puisqu'il fut un instant maître de Rome. Sa naissance était plus qu'obscure. On s'accorde assez à dire que sa mère, Elvia, était une femme de noblesse. Mais quant à son père, on ne sut jamais bien quel métier il exerçait. L'opinion la plus accréditée fut que le grand orateur, né à Arpinum, patrie de Marius, était fils d'un foulon. D'autres prétendaient d'un maraîcher. Quelques-uns eurent l'idée, et peut-être lui-même l'eut-il, de mettre au nombre de ses aïeux Tullius Atticus, qui régna sur les Volsques. Mais sur ce point, les amis de Cicéron, ni lui-même, ne paraissent point avoir insisté. Lui se nommait Marcus Tullius Cicero. Marcus était son nom personnel, le nom que les Romains avaient l'habitude de donner aux enfants 6 jours après leur naissance. Tullius était son nom de famille et, dans la vieille langue romaine, signifiait « ruisseau ». Enfin, Cicero était le surnom d'un ancêtre qui avait eu sur le nez une verrue ayant la forme d'un poing, Cicère, de là le nom de Cicero, dont, en le francisant, nous avons fait Cicéron. Peut-être aussi, dit Middleton, ce nom de Cicero vient-il de quelque ancêtre jardinier qui était cité pour son aptitude à cultiver des pois. Cette opinion mettrait à néant celle de Plutarque qui dit « Il faut cependant que le premier de cette maison qui fut surnommé Cicero fût un homme remarquable pour que ses descendants tinssent à conserver son nom. » En tout cas, Cicéron ne voulut point le changer et à ses amis qui l'empressaient à cause du côté ridicule, il répondit « Non pas, je garde mon nom de Cicéron et je le rendrai, je l'espère, plus glorieux que celui des Scaurus et des Catulus. » Il tint parole. Demandez à brûle-pourpoint à un homme de médiocre instruction ce qu'étaient les Scaurus et les Catulus, il hésitera à vous répondre. Demandez-lui ce qu'était Cicéron, il vous répondra sans hésiter, le plus grand orateur de Rome, nommé Cicéron, parce qu'il avait un pois chiche sur le nez. Il dira vrai quant au talent, mais il se trompera quant au pois chiche, puisque c'était l'aïeul de Cicéron, et non pas lui, qui était décoré de cette excroissance charnue. Et encore, voyez Middleton, qui conteste même le pois chiche, et qui le change en pois vert. Mais quant à Cicéron, il tenait fort à son pois chiche. Étant questeur en Sicile, il offrit aux dieux un vase d'argent sur lequel il fit inscrire ses 2 premiers noms, Marcus et Tullius. Mais au lieu du 3e nom, il fit graver un pois chiche. C'est probablement le premier rébus connu. Cicéron était né 106 ans avant Jésus-Christ, le 3e jour de janvier. Il était de la même année que Pompée et avait, comme lui, 6 ans de plus que César. On raconte qu'un fantôme était apparu à sa nourrice et lui avait dit qu'un jour cet enfant serait l'appui de Rome. Ce fut probablement cette apparition qui lui donna une si grande confiance en lui-même. Tout enfant encore, il avait fait un petit poème, Pontius Glaucus, mais comme presque tous les grands prosateurs, il était fort médiocre poète, tout au contraire des grands poètes qui sont presque toujours d'excellents prosateurs. Ses études terminées, il avait étudié l'éloquence sous Philon et les lois sous Mucius Sévola, jurisconsulte habile et le premier parmi les sénateurs. Puis il était allé, quoique peu belliqueux, servir sous Sylla dans la guerre des Mars. Cependant, il débuta par un acte de courage, mais de courage civil. Ne pas confondre le courage civil avec le courage militaire. Un affranchi de Sylla, nommé Chrysogonus, venait de faire mettre en vente les biens d'un citoyen tué par le dictateur et il avait lui-même acheté ses biens pour 2000 drachmes. Roscius, fils et héritier du mort, prouva que l'héritage valait 250 talents, c'est-à-dire plus d'un million. Sylla était convaincu du crime qu'il reprochait à Crassus. Mais Sylla ne se laissait pas démonter facilement. À son tour, il accusa le jeune homme de parricide et dit que c'était à l'instigation du fils que le père avait été tué. Accusé par Sylla, Roscius fut abandonné de tous. C'est alors que les amis de Cicéron le poussèrent en avant. S'il défendait Roscius, s'il gagnait son procès, son nom était certain, sa réputation était fondée. Cicéron plaida et gagna. Ne pas confondre ce Roscius avec son contemporain Roscius l'acteur, pour lequel Cicéron plaida aussi contre Fannius Cherea. Celui dont il est question ici s'appelle Roscius Amerinus, et nous possédons le plaidoyer de Cicéron, pro Roscio Amerino. Le jour même où il avait gagné son procès, Cicéron partit pour la Grèce sous prétexte de soigner sa santé. En effet, il était si maigre qu'il semblait être lui-même le fantôme apparu à sa nourrice. Il avait l'estomac faible, ne pouvait manger que très tard et fort peu. Mais il avait la voix pleine et sonore, quoique rude et peu flexible. Et comme sa voix montait jusqu'aux tons les plus élevés, il était toujours, dans sa jeunesse du moins, écrasé de fatigue après ses plaidoyers. Arrivé à Athènes, il étudia sous Antiochus l'Ascalonite, puis il passa à Rhodes, où nous l'avons vu rencontrant César. Enfin, Sylla mort, sa constitution s'étant améliorée, sollicité par ses amis, il revint à Rome, après avoir visité l'Asie et suivi les leçons de Xénoclès d'Adramite, de Denis de Magnésie et de Ménippe le Carien. À Rhodes, il avait eu un succès aussi grand qu'inattendu. Apollonius Molon, sous lequel il étudiait, ne parlait point la langue latine, tandis que Cicéron, au contraire, parlait la langue grecque. Voulant avoir à la première vue une idée de ce que pouvait faire son futur élève, Molon lui donna un texte et le pria d'improviser en grec. Cicéron le fit volontiers. C'était un moyen de se fortifier dans une langue qui n'était point la sienne. Il commença donc, en priant Molon et les autres assistants, de noter les fautes qu'il pourrait faire, afin que, ces fautes lui étant connues, il s'en corrigeât. Lorsqu'il eut fini, les auditeurs éclatèrent en applaudissements. Seul Apollonius Molon, qui, pendant tout le temps que Cicéron avait parlé, n'avait donné aucun signe d'approbation ni d'improbation, resta pensif. Puis, pressé par Cicéron, inquiet de lui dire son avis, « Je te loue et t'admire, jeune homme, lui dit-il, mais je plains le sort de la Grèce en voyant que tu vas transporter à Rome les seuls avantages qui nous restaient, l'éloquence et le savoir. » De retour à Rome, Cicéron prit des leçons de Roscius le comédien et d'Ésope le tragédien, qui, tous deux, tenaient le sceptre de leur art. Ce furent ces deux maîtres qui le conduisirent à la perfection de débit à laquelle il était arrivé et qui était sa plus grande puissance. Étant questeur, il avait été envoyé en Sicile. C'était pendant un temps de disette et, depuis que l'Italie avait été convertie en pâturage, nous aurons l'occasion tout à l'heure de parler de cette conversion, la Sicile était devenue le grenier de Rome. Cicéron pressa donc les Siciliens d'envoyer leur blé en Italie et, par cette instance, commença de se faire mal venir de ses clients. Mais lorsqu'ils virent son activité, sa justice, son humanité et surtout son désintéressement, chose rare au temps de Verrès, ils revinrent en lui et l'entourèrent, non seulement d'estime, mais encore d'affection. Il revenait donc de Sicile, content de lui, ayant fait le plus de bien qu'il avait pu, ayant, dans 3 ou 4 occasions, brillamment plaidé, croyant que le bruit qu'il avait fait en Sicile s'était répandu dans le monde entier et qu'il allait trouver le Sénat l'attendant aux portes de Rome, lorsque, traversant la Campanie, il rencontra un de ses amis qui, le reconnaissant, vint à lui le sourire sur les lèvres et la main ouverte. Après les premiers compliments, « Eh bien, demanda Cicéron, que dit-on à Rome de mon éloquence et que pense-t-on de ma conduite pendant mes 2 ans d'absence ?»« Où étais-tu donc ?» lui demanda l'ami. « Je ne savais point que tu eusses quitté Rome. » Cette réponse eût guéri Cicéron de la vanité, si la vanité n'était une maladie incurable. Au reste, une occasion allait se présenter qui donnerait toute carrière à cette vanité. D'abord, il plaida contre Verrès et le fit condamner à 750 000 drachmes d'amende et à l'exil. L'amende était une plaisanterie, mais l'exil était sérieux. Puis l'exemple, puis la flétrissure, puis la honte. Il est vrai qu'il n'y a pas de honte pour les coquins. Ce succès mit Cicéron à la mode. Il eut, dit Plutarque, une cour presque aussi nombreuse à cause de son talent que Crassus à cause de ses millions et Pompée à cause de sa puissance. Ce fut sur ces entrefaites que l'on commença à s'occuper de la conspiration de Catilina. Après avoir vu ce qu'étaient Pompée, Crassus et Cicéron, voyons ce qu'était Catilina. Nous savons ce qu'était César.